Bonjour mes frères et sœurs et mes amis, nous voilà pour la deuxième étude de l'Épître aux Hébreux. J'espère que le temps passe pas trop long pour vous. Nous ici à la communauté, on est tous ensemble et voilà, les choses semblent passer certainement plus vite quand on est ensemble et qu'on a des activités. C'est aussi un des privilèges de vivre l'Église telle que elle se vivait dans les premiers temps, c'est-à-dire comme dans les Actes des Apôtres, où on était tous ensemble, en commun, et voilà. Donc ça fait depuis 1977 qu'on vit ça, et on est heureux de pouvoir être à table et ensemble partager et raconter nos histoires de la journée, des travaux que nous faisons partout à gauche, à droite, dans la propriété, et voilà. Bon, alors, je suis pas là pour vous raconter ma vie, mais c'est juste pour vous dire, il y a vraiment des avantages à vivre ce que la parole de Dieu dit de vivre. Voilà. Donc, c'est la deuxième étude de l'Épître aux Hébreux aujourd'hui. Alors, il faut savoir que, jusqu'au prophète Malachi, tous les prophètes, donc, de l'Ancien Testament ont annoncé celui qui devait venir pour accomplir ce qu'ils annonçaient, c'est-à-dire Jésus. Ils l'ont fait de façon de plus en plus précise, à tel point que Malachi, le dernier prophète que l'Ancien Testament cite, eh bien, il a un message qui se termine ainsi. On trouve ça dans Malachi chapitre 3. Il faut que je le trouve. Chapitre 3, verset 1, je crois. Oui, c'est ça. Voici que j'enverrai mon messager pour préparer le chemin. Alors le messager pour préparer le chemin, c'était Jean-Baptiste, hein, qui a préparé le chemin du Seigneur. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous recherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Seigneur, je te prie de bénir ces mots que je vais prononcer ce soir afin que cela fortifie la foi de chacun. Merci Jésus. Donc voilà, c'est la dernière, on peut dire, la dernière prophétie de l'Ancien Testament au sujet de la venue de Jésus. Et moi je crois que l'épître aux Hébreux a été écrite par Paul. Alors évidemment, je vais vous dire Paul, peut-être vous n'êtes pas convaincu que c'est Paul qui l'a écrite. Moi je pense que c'est lui. En tout cas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que toutes les prophéties qui ont été données dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, par tous les prophètes, eh bien, elles se sont accomplies. Lisons Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 2. « Après avoir autrefois et à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. » Amen. Alors Dieu maintenant, dans les derniers jours, parce que l'apôtre Paul croyait qu'il vivait dans les derniers jours, et il avait parfaitement raison, c'était les derniers jours pour le temps d'Israël, quelques temps plus tard, en 70, le temple a été détruit, c'était fini pour Israël, c'était les derniers jours pour Israël, c'était un autre temps qui commençait pour les nations. Et quand les nations, alors, après, sont arrivées, ils ont foulé aux pieds, n'est-ce pas, Israël, même le temple et toutes ces choses-là. Et jusqu'au temps de la fin, il arrivera un moment, ce sera la fin du temps des nations. Et c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on voit en ce moment avec la mondialisation, les nations, ça commence à s'effondrer, tout. Enfin, je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez, vous savez comment ça se passe en ce moment. On arrive à la fin, dans les derniers temps des nations maintenant. Alors, il dit que maintenant, dans les derniers jours, Dieu nous parle par son Fils. Dans d'autres versions, c'est écrit « Dieu nous parle dans le Fils ». Alors, Jésus, homme, est venu révéler les pensées de Dieu. C'était en fait Dieu incarné dans cet homme nommé Jésus. Vous vous rappelez, il avait été dit à ses parents qu'il fallait lui donner le nom de Jésus parce que les prophètes avaient dit « tu l'appelleras Emmanuel hein ». Jésus c'est Dieu sauveur, Emmanuel c'est Dieu avec nous. Alors, quand Jésus était sur la terre, Dieu était sur la terre parlant lui-même au travers de ce corps qu'il s'était formé dans la Vierge Marie. Dieu nous parle par le Fils, nous dit l'apôtre Paul, et Dieu ne parlait plus par un intermédiaire. Jésus n'était pas un intermédiaire. Jésus était Dieu avec nous, ce que signifie Emmanuel. Alors, dans l'Ancienne Alliance, Dieu parlait par l'intermédiaire de prophètes inspirés, mais dans la Nouvelle Alliance, c'est Dieu qui est venu lui-même pour nous parler. Donc, Dieu parle lui-même, non pas par un autre, je répète encore, non comme le Père, ni par le Saint-Esprit au travers d'un homme nommé prophète, mais comme la personne divine qu'il est, cette personne étant le Fils, celui qu'on appelle le Fils, Dieu avec nous, Emmanuel. Et au verset 2, il est dit « Dieu a établi le Fils héritier de toutes choses ». Ça implique l'humanité de Jésus, parce que c'est Jésus qui a donné sa vie, son corps, n'est-ce pas, sur la croix, son corps d'homme. Car après avoir souffert en tant qu'homme, et après avoir été exalté à la droite de Dieu comme homme ressuscité, le premier d'entre les morts, eh bien, c'était ce que le conseil de Dieu avait décidé, eh bien, il met toute chose sous ses pieds et il a tout en sa possession. On va lire Philippiens 2, si vous voulez bien avec moi, Philippiens 2, 6, 11. Voilà ce qui est dit. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, vous vous rendez compte? Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus est Dieu, le Créateur. C'est par lui que les mondes ont été faits. On va commencer à lire l'évangile de Jean. Il est dit au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, par la parole, et rien de ce qui n'a été fait sans elle, sans la parole. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Verset 10. Elle était donc la parole dans le monde, et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas accueillie. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu, dans son immensité de silence, n'avait jamais parlé, et voilà qu'il a émis un son, il a parlé. La parole, c'est pourquoi on appelle Jésus la parole faite chair. Il a parlé, et c'était la première chose qu'il a faite, il a parlé. Maintenant, les scientifiques ont une vague intuition qu'il y aurait eu à un moment donné un Big Bang. Moi, je ne dis pas ça, je dis que Dieu a parlé, ça a été un bruit terrible, certainement. Et quand Dieu a parlé, quelque chose est sorti de lui, sa parole est sortie de lui. Elle était en face de lui, sa parole. Et lui, c'est la même chose. Ma parole et moi, c'est la même chose. Si je viens à mourir, ma parole enregistrée là sera toujours la parole de Michel Janton. Ça ne peut pas être la parole de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc, la parole est sortie du seul, unique, vrai Dieu. Et cette parole est Dieu, puisqu'elle est sortie de Dieu. Et c'est par elle que tout a été créé. Alors il nous dit qu'elle était avec Dieu. Ça veut dire qu'elle n'était pas contre Dieu, elle ne contredisait pas Dieu. Dieu ne dit pas des choses contraires à sa propre pensée, il est un. Ça ne veut pas dire qu'il y avait deux dieux, non, il y a un seul Dieu. Et ce qu'il dit, c'est la même chose que ce qu'il est et ce qu'il pense. On va lire dans Colossiens chapitre 1, verset 15-16. Le Fils, donc Jésus, est l'image du Dieu invisible. Quand il était sur terre, on voyait quelque chose, on voyait un homme. C'était l'image du Dieu invisible. Virgule, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que la première chose qui a été créée, c'est le Fils. Qui est appelé dans Jean la parole. Donc la première création, c'était la parole, Dieu qui parle. Ensuite il continue et il dit, en effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est clair? Jésus est le premier-né de toute la création, comme je vous l'ai expliqué. Ça signifie que notre Père Céleste a parlé et que cette parole étant sortie de lui était divine. Jésus est la parole de Dieu. Dieu n'avait jamais parlé et là, il parle et sa parole crée tout. Jésus crée tout. Et puis, cette parole, Dieu, cette parole devient chair. Et voilà que c'est Jésus qui vient au monde dans un corps de chair, la parole qui devient chair. Vous avez déjà lu ça dans la Bible. Jésus est la parole faite chair. C'est-à-dire, c'est Jésus, c'est Dieu fait chair. La parole de Dieu est aussi divine que celui qui a parlé, notre Dieu, notre seul et unique vrai Dieu. Si vous êtes musulman et que vous m'écoutez, ne croyez pas que les chrétiens pensent qu'il y a trois dieux. Oui, il y en a certains. Certains pensent qu'il y a trois dieux. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Celui qui connaît, le chrétien qui connaît la Bible, c'est bien qu'il n'y a pas trois dieux. Dieu est donc descendu parmi nous. Et là, on attaque Hébreux, toujours. On va quand même, puisque c'est une étude sur la lettre aux Hébreux, on va de nouveau attaquer Hébreux. Hébreux chapitre 1, mais là maintenant verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire est l'expression de sa personne, c'est-à-dire il est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de la personne de Dieu et il soutient tout par sa puissance. Vous avez d'autres versions qui emploient d'autres mots mais qui veulent dire la même chose. Par exemple, à la place de « il est le reflet de sa gloire », il y en a qui disent « c'est la resplendissance de la gloire de Dieu ». Qu'est-ce que c'est le resplendissement? J'aime bien le mot. Il y a des versions, ça veut dire la même chose, mais il y a des versions qui me parlent plus parce que j'ai une culture un peu différente, un peu plus proche de celle des traducteurs. Le resplendissement de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa substance. Ah, c'est fantastique. Qu'est-ce que ça signifie, resplendissement? Alors, pour le savoir, il ne faut pas aller consulter n'importe qui, il faut aller voir un dictionnaire français. Alors ça signifie lumière abondante répandue par un astre, ça signifie rayonnement, rayonnante plénitude physique et morale, valeur suprême, apothéose. Vous rappelez ce que je vous ai dit au sujet de l'apothéose la dernière fois, hein? L'apothéose. Alors le texte, il pourrait être traduit par « il est ». La lumière abondante répandue par un astre, par Dieu, une rayonnante plénitude physique et morale, valeur suprême et apothéose. Vous voyez, resplendissement. L'empreinte de sa substance, ça c'est des mots, n'est-ce pas? Et les mots de l'écriture, ça veut dire la marque profonde et durable, une empreinte. L'expression de Dieu, de la personne de Dieu. Voilà ce qu'était Jésus dans ce monde. Et dans 1 Jean 4, 17, il dit « Tel il était dans ce monde, tel nous sommes ». C'est pourquoi il dit qu'il faut se conformer à Jésus, il faut être ses imitateurs. parce que nous en avons le pouvoir par le Saint-Esprit qui vit en nous. Alors il nous a fait connaître la gloire et la puissance de Dieu. C'est Jésus qui nous a fait connaître la gloire et la puissance de Dieu. Les prophètes avant, lui, ont fait des choses magnifiques, mais personne n'a jamais fait ce que Jésus a fait. Il était, dans sa personne humaine, la révélation de Dieu lui-même aux hommes, et aux femmes, aux enfants. Alors, il est venu nous révéler celui qui habite la lumière inaccessible. On trouve ça dans 1 Timothée 6,16. 1 Timothée 6,16. Le voilà. Il est le seul à posséder l'immortalité, Jésus. Lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. D'accord ? Jésus-Christ est venu nous révéler notre Père Céleste, notre Créateur, qui habite une lumière qui nous est absolument inaccessible. Il est venu le révéler. Il est l'empreinte de sa substance ou de son être. C'est-à-dire, il est ce que Dieu est en lui-même. Il était sur terre comme un seau apposé sur de la cire. Vous avez déjà vu ça. Le seau qu'on appose sur la cire reproduit exactement tous les traits du seau lui-même. Et alors, c'est ainsi que Dieu s'est montré en Jésus-Christ d'une manière absolument parfaite. Jésus sur la terre, il montrait Dieu. Et tous ceux qui l'ont vu, ont vu le Père. Dans ce qu'il disait, dans ce qu'il faisait. Un jour, il y a un apôtre qui est venu vers lui puis qui lui a posé la question. On trouve ça dans Jean 14, 8. C'est Philippe qui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Le Père qui habite dans une lumière inaccessible, il l'a sous les yeux, dans un corps d'homme. Ah, ben, c'est un peu difficile à avaler, hein. Il ne comprenait pas, Philippe. Alors Jésus lui dit, je suis sûr que Jésus l'a dû faire. Ah, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait aussi les œuvres que je fais. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause des œuvres que je fais. Oh, ils étaient durs à la comprendre, mais on ne peut pas leur jeter la pierre, il y a aussi beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris tout ça. T'as vu le Père, puisque tu m'as vu, tu as vu le Père. Et il soutient toute chose. Par sa parole puissante, il soutient toute chose. Alors non seulement il a tiré toute chose du néant, non seulement il les a bien ordonnées, mais il maintient l'existence de ce qu'il a créé dans leur ordre et il gouverne tout. Alors, sans son action constante, ces choses cesseraient d'exister comme ça. Elles tomberaient dans la confusion et dans le néant. Mais ce qu'il a fait de plus grand, c'est la purification des péchés. C'est son œuvre. Il ne faut pas lui enlever ça. C'est son œuvre. Ce n'est pas notre œuvre qui peut nous sauver. Ce n'est pas vos œuvres, vos bonnes œuvres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des bonnes œuvres, mais ce n'est pas vos bonnes œuvres qui vous sauvent. Vous faites des bonnes œuvres parce que vous avez un sauveur à qui vous voulez plaire, mais ce n'est pas vos bonnes œuvres qui vous sauvent. Jamais. Si vous pensez que vos bonnes œuvres vous sauvent, vous insultez Dieu. Parce que c'est lui qui a donné sa propre vie pour vous sauver. Vous ne pouvez rien ajouter à ça. D'accord ? C'est une œuvre que lui seul pouvait faire parce qu'il était parfait. Nous ne pouvons pas nous sauver par nos bonnes œuvres. Il faut se mettre ça dans la tête. Raphaël le Gitan disait, mettez-vous ça dans la tête et donnez un bon coup pour que ça descende 30 cm plus bas dans le cœur. Ouais, je me souviens. Il avait raison. Il faut que vous compreniez ces choses et puis qu'elles viennent dans votre cœur. Ce n'est pas par vos œuvres que vous pouvez vous sauver afin que personne ne se glorifie. Il est celui qui a payé le prix pour que nous puissions être sauvés et il a été exalté à la droite de Dieu, c'est-à-dire dans son corps. Ce n'est pas Dieu qui est mort à la croix. Dieu vivait dans ce corps, mais ce n'est pas Dieu qui est mort. Dieu ne meurt pas. Mais le corps est mort. Ce corps a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? À quoi c'est horrible, c'est épouvantable. Et puis il est mort, mais il est ressuscité et il a été exalté, il est monté au ciel, exalté, enlevé, tout ça c'est le même mot, au ciel. Et il s'est assis à la droite du Père. Ça veut dire il est maintenant le membre actif depuis le ciel. C'est sa gloire personnelle. C'est le Messie occupant sa place céleste. Alors les Juifs attendaient qu'il les débarrasse des Romains, mais il n'était pas venu pour ça. Il viendra après pour mettre de l'ordre sur la terre et mettre la tête de tous les gouvernants dans la poussière, surtout ceux qui ont été corrompus. Et je crois qu'il y en a pas mal. Je n'ai pas le droit de juger. J'ai quand même ma petite idée. Hein? C'est son œuvre. Après avoir accompli son œuvre pour notre salut, il occupe maintenant une place céleste. Et c'est toujours le diable qui est le prince de ce monde. C'est le diable qui mène le bal. Et tout ce que vous voyez, il y a des gens qui m'écrivent, mais pourquoi est-ce que Dieu a envoyé ce virus? Ce n'est pas Dieu qui a envoyé ce virus. C'est la méchanceté humaine qui permet que ces choses-là, ces saletés démoniaques se manifestent. Alors ce que l'apôtre Paul, ou qui vous voulez, qui a écrit celui, l'auteur de la lettre aux Hébreux, ce qu'il a écrit là, c'est propre à détacher les chrétiens juifs du judaïsme, en les attachant directement au ciel. Ils avaient de la peine ils se convertissaient à Jésus, mais ils gardaient encore leur vieille tradition juive. Et on verra vendredi prochain comment l'auteur de cette épître va donner tout ce qu'il faut aux juifs issus du judaïsme, et qui sont chrétiens, et aux chrétiens issus de cultures païennes, parce que, attendez, c'est pas parce que vous êtes catholique que vous êtes un bon chrétien, hein. C'est pas parce que vous êtes protestant que vous êtes chrétien, c'est pas parce que vous êtes pentecôtiste que vous êtes chrétien, hein. Ça c'est rien du tout, ça c'est des étiquettes. Mais ceux qui... On est issu d'une culture païenne. Moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, je me suis comporté comme un païen. Pourtant, j'étais protestant, issu de la meilleure église de Suisse, l'église nationale. Hein, on ne fait pas mieux. Eh ben, j'étais un païen. Païen. Et oui, jusqu'à ce que je me donne à Jésus-Christ et que je lui fasse confiance et que je me mette à marcher selon sa volonté du mieux que je pouvais avec son aide. Et c'est ce qu'il attend de nous. Alors il va tout donner pour que notre assurance à tous soit parfaite. Il veut que vous ayez de l'assurance. Des gens qui m'écrivent, ils disent, oh, on dirait que c'est la fin du monde, j'espère que Jésus m'aime, on n'espère pas que Jésus nous aime. Il nous aime, on le sait. Si vous ne savez pas que Jésus vous aime, vous êtes encore païen. Jésus vous aime, il a donné sa vie pour vous, pour que vous soyez pardonnés. Il suffit de le croire de tout votre cœur, puis de vous mettre à marcher selon ses directives. Mais ce n'est pas parce que vous marchez selon ses directives que vous allez être sauvés. Vous marchez selon ses directives parce que vous l'aimez. Vous comprenez? Ce que vous devez retenir dans ces jours sombres qui sont là et qui enveloppent le monde entier, avec cette saleté du virus, c'est que Jésus tient tout sous son contrôle. Lui, il peut juger. Nous, on n'a pas le droit de juger. Il nous a dit, vous n'avez pas. Il ne faut pas juger. Vous allez vous tromper, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les tenants, les aboutissants. Ne jugez pas, on ne juge pas. Alors, ne cherchez pas le coupable, ne dites pas, c'est pas juste que celui-ci soit mort, mais pourquoi c'est... Non, ce n'est pas notre rôle d'enfant de Dieu. Le rôle de l'enfant de Dieu, c'est d'aimer, de pardonner. Et puis, ce virus, cette saleté peut tomber sur n'importe qui, comme le cancer. On meurt plus du cancer que du virus corona, machin, là. on meurt plus de la grippe. Et vous avez des chrétiens qui meurent d'accidents. On peut pas juger. Ça tombe sur n'importe qui. D'accord? Ne jugez pas, ne dites pas, oh, un tel serviteur de Dieu, il est mort de ça parce qu'il avait fait des péchés. Non, ne jugez pas, s'il vous plaît. Je vois des tas de gens qui jugent comme ça sur YouTube, mais c'est des gens, mon Dieu, c'est des paires de claques qui se perdent là. Hein. Il n'y a qu'une seule sorte de personnes qui ont le droit de juger sur la terre, c'est les juges, les magistrats. La Bible nous dit que Dieu leur a donné une épée pour juger. Une épée, ce n'est pas pour chatouiller sous les ailes, hein. Comprenez? Ça, c'est des gens, Dieu leur a donné le pouvoir de juger afin qu'il règne quand même un minimum d'ordre, je dirais. Heureusement qu'on a les tribunaux et prier pour ceux qui sont en charge de juger, que prier pour eux plutôt que de les critiquer. C'est facile de critiquer. Hein. C'est plus difficile d'être un homme, une femme et puis d'avoir cette charge-là. De juger. Alors, me dire, c'est vrai, des fois il y a des injustices. Oui. Parce qu'on n'est pas humain, mais Dieu tient tout sous son contrôle. Nous, on est appelés à aimer même nos ennemis. Même nos ennemis. C'est pas facile. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Croyez bien que Jésus tient tout sous son contrôle. Il tient ma vie. Peut-être la semaine prochaine, je suis à l'hôpital. Peut-être dans 15 jours, je suis mort. On ne sait rien, on ne sait pas. Il tient ma vie. Il tient votre vie. Il tient la vie de vos bien-aimés. Oui, c'est pas... Alors, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je faisais du porte-à-porte et puis je donnais une plaquette que j'avais écrite qui s'appelait L'Unique. Et puis, il y a une dame qui m'a dit, je me rappelle toujours, c'était un magasin tout près de l'opéra, elle m'a dit, oh, s'il y avait un dieu, il aurait pas repris mon mari, parce qu'elle venait de perdre son mari, cette femme. Mais c'est drôle comment les gens pensent. Bien sûr, elle était dans la souffrance, elle avait perdu son mari. Mais on sait bien qu'on doit mourir. De ceci ou de cela, on sait bien qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Mais on dirait que les gens n'y pensent jamais. Et puis tout d'un coup, ils sont... C'est vrai qu'on est sous le choc. Mais un chrétien, il n'est pas sans espérance, il sait qu'il a la vie, il y a une vie après la vie. Alors, ressaisissez-vous. Hier, j'ai perdu ma cousine, Josie. Eh oui, hier, j'ai appris ça, elle est décédée. Mais je n'ai pas dit, oui, mais comment ça se fait, elle était super, c'est une femme formidable, comment ça se fait, pourquoi tu l'as repris, non. Que voulez-vous? On vient au monde, pour un jour on s'en va, et ça vous arrivera à vous aussi, et puis ça arrive à ceux que vous aimez, alors que ça soit par le corona machin, ou que ça soit par... Mais Dieu tient tout sous son contrôle. Ne vous mettez pas en colère contre Dieu, ça ne sert à rien, vous faites du mal, puis vous risquez de blasphémer en plus. Vous êtes des chrétiens ou quoi? Si vous êtes des chrétiens, je ne veux pas dire vous devez vous résigner, ou vous ne devez pas avoir de sentiments, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être triste ou angoissé parce que vous avez quelqu'un à l'hôpital qui souffre. Non, bien sûr que non. Vous êtes angoissé, c'est normal. Vous êtes triste, c'est normal. Mais on sait qu'un jour ou l'autre, on doit y passer. Alors, en attendant d'y passer, puisqu'on doit rester chez nous, restons chez nous, faisons le mieux possible, là... Lisez la Bible, priez. Tiens, vous avez sur révélationbible.fr. Sur révélationbible.fr, c'est mon site. Là, vous avez des milliers de prédications. Vous allez pouvoir passer le temps. Et vous en écoutez une le matin, une l'après-midi, puis une le soir avant d'aller au lit. Vous allez voir, ça passe le temps. Et puis, ça va vous apprendre des choses. Et puis, partagez avec vos amis. Occupez-vous d'une façon constructive. Même si vous êtes tout seul, c'est vrai, c'est pas drôle, j'ai une amie là, elle habite pas loin de chez nous là, ouais, elle s'appelle Simra, elle habite pas loin, on peut pas l'inviter, il faut pas, hein. Il faut être prudent, si on l'invite et puis que l'un d'entre nous a attrapé d'une manière ou d'une autre le machin, elle peut, non, il faut être sage, hein. Soyez sage, restez chez vous. Restez chez vous, soyez prudents. Gardez la foi, mais la foi, ça ne veut pas dire d'être imprudent. Hein, Jésus a dit, soyez prudents. Il a dit, faut être pur comme des colombes et prudent comme des serpents. Hein. Ou le contraire, je sais plus. Enfin, pas pur comme des serpents, sûrement pas. Non, non, c'est pur comme des colombes et prudent comme des serpents. Il faut être prudent, il faut pas faire n'importe quoi. Hein. Hein, vous allez dire, oh ben Michel, tu gagatises, tu nous parles comme à des gamins, on entend ça déjà à la radio, à la télévision tous les jours. Non, mais simplement, je vous aime et je veux vous dire que, voilà, il faut que vous preniez soin de vous. Jésus est tout-puissant et vous aime. Amen. Allez, j'arrête. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et puis, soyez dans la joie, soyez dans la paix. Que Dieu vous garde. Merci Seigneur d'aider mes frères et sœurs dans ce confinement qui ne va pas durer éternellement. Merci Seigneur Jésus d'aider toutes les infirmières, tous les chercheurs, tous les gens qui travaillent pour soigner. Bénis aussi toutes les caissières dans les supermarchés, tous les gens qui travaillent, qui sont obligés, dans les boulangeries, partout là où, protège-les, garde-les, Seigneur, et réconforte-les, mon Dieu, donne-leur du bon courage. Mais je pense aussi, il y a tellement de gens qui travaillent, qui font tellement de choses, et les pompiers, les taxis, il y a tellement de monde héroïque, magnifique, en ce moment, qui... Voilà, que Dieu vous bénisse tous, au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Gardez la foi. À bientôt. Au revoir.